voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Jérôme Sandelard se rencontre Maxime Le Forestier. Ce soir, passion, lubies et autres obsessions.
Bonsoir Maxime Le Forestier.
Bonsoir.
Hier, nous évoquions votre longue traversée du désert, la profonde remise en question qui s'en est suivie, la découverte du handicap de votre fils Philippe, malentendant, sa prise en charge, la manière dont vous avez surmonté toutes ces épreuves en prenant de la distance, grâce à la psychanalyse, rapidement. Et puis nous sommes revenus sur la sortie de Né quelque part en 1988, qui marque votre renaissance, grâce notamment à votre collaboration avec l'arrangeur Jean-Pierre Sabart, qui a apporté sa touche africaine à vos productions. Enfin, nous avons aussi rappelé votre collaboration avec Boris Bergman sur l'album Passer ma route et également sur l'écho des étoiles. Pour ce cinquième et dernier épisode d'A voix nue, je vous propose de faire un pas de côté et d'évoquer ensemble vos différentes passions, lubies, hobbies et autres obsessions, à commencer par Brassens.
Ah oui, je ne sais pas dans quelle catégorie je peux classer Brassens. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une obsession. Ça peut être une passion, oui, c'est vrai. Mais c'est un homme à qui je dois ce que je suis devenu, parce que il n'y aurait pas eu ses chansons, je suis pas, j'aurais peut-être pas appris la guitare. Moi, j'ai acheté une guitare à 14 ans, je suis allé dans le magasin d'à côté où il y a des partitions, et j'ai dit « qu'est-ce que vous avez pour guitare et voix ?» Le mec, il m'a vendu 4 partitions de Brassens. Bon, chance. Mais il n'y aurait pas eu lui, peut-être que je ne serais pas chanteur, peut-être que je sais pas. Je sais pas. Et puis, philosophiquement, c'était quand même une contradiction assez marquée avec les gens qui m'avaient éduqué dans mon enfance. C'était une ouverture sur la liberté de penser et la liberté de dire. Je lui dois beaucoup pour ça, mais ça, je suis pas le seul. On est des milliers et des milliers et des milliers en France à avoir eu l'esprit ouvert par l'œuvre de Brassens.
Ce décalage finalement entre cette éducation religieuse que vous avez
oui, de la France de l'époque aussi, la France des années 50, c'était pas la France des années 2000. Hein. Bon, deuxièmement, quand j'ai eu 23 ans et que mon premier album est sorti, il a accepté que je figure dans sa première partie à Bobino. Donc là, j'ai pu le rencontrer. J'ai serré la main pour la première fois la veille de la première.
Est-ce que vous étiez intimidé?
Ah, grave, oui. Grave. Et comme lui, il était à la fois assez timide, réservé, et en même temps, c'était quand même une énorme vedette qui faisait sa rentrée à Paris avec 12 chansons nouvelles que personne ne connaissait et dont lui-même n'était pas sûr qu'elles allaient marcher, hein. Ça m'avait toujours choqué quand je parlais d'une chanson de Brassens à Brassens, c'est qu'il me disait « oui, mais celle-là n'a pas marché ». Et dans mon esprit, moi qui les connaissais toutes, elles avaient toutes marché, évidemment. Bref, donc la deuxième fois, je lui dois quand même le succès, l'exposition qui a permis le succès. Et puis des années plus tard, je crois que c'était en 92 ou 13, Gibraltar, son secrétaire, est venu me voir à l'Olympia avec un bouquin. Le bouquin du Seuil, là, Brassens, poèmes et chansons. Il m'a dit, voilà, je prends ma retraite, on vend l'édition. Tout ce que Georges souhaitait voir lui survivre est dans ce livre. Et il m'a donné le livre, là j'ai ouvert. Et à la fin, il y avait un certain nombre de chansons que je ne connaissais pas. Qui étaient les chansons posthumes, les chansons qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer. La maîtresse d'école, les Pyrénées. Honte à cette effrontée qui peut chanter pendant que Rome brûle. Des merveilles, l'orphelin. Purée. La file indienne. Et je me suis mis doucement à les travailler. Mais là, je savais jouer de la guitare un peu mieux. Donc c'était plus facile que quand j'avais 14 ans. Et j'ai commencé à les chanter. Et puis, un jour, à la fin d'une tournée, j'ai embarqué l'ingénieur du son ici. Et on a enregistré 12 de ces chansons-là pour un album que j'ai appelé 12 nouvelles de Brassens.
Ici, dans cette maison.
Ici, dans cette maison. Mais je suis pas satisfait de cet album parce que chanter Brassens pour un micro, je peux pas. Il faut que je chante à quelqu'un. Il faut que j'ai un regard en face de moi pour que ce soit bien. J'avais dit à la maison de disques, je vous préviens, ce disque-là, comptez pas sur moi pour faire des télés, dire regardez comme je chante. Non, c'est un truc pour moi, ça. Donc, le seul truc de promo que je peux vous offrir, c'est de prendre 15 jours dans une petite salle, au Sentier des Halles, par exemple. Et là, vous faites venir des journalistes, et puis au bout de 15 jours, j'arrête et je passe à autre chose. Seulement, ils ont fait venir des journalistes, et puis des directeurs de salle, et je me suis trouvé avec une tournée qui aura duré 2 ans. Première fois, 250 concerts. Puis une tournée des années après qui aura fait la même durée et le même nombre de concerts. Donc j'aurais fait 500 concerts Brassens. Alors, la veille de mon premier concert au Sentier des Halles, je m'étais dit, mais que chanter? C'est bon, j'avais mes 12 nouvelles. D'accord, mais...
Il y avait les 160 autres.
Il y avait les 160 autres.
159 pour être précis.
Et j'arrivais pas à choisir, évidemment. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre sur un cahier toutes celles que je peux chanter, les doigts dans le nez, les yeux fermés. Et il y en avait 48. Et je déciderai demain de savoir lesquelles je chante. Et puis le lendemain, j'ai pas décidé. Et donc j'ai eu cette idée de leur donner à chacune un numéro et de demander aux gens dans la salle quel numéro voulez-vous que je chante. Et ce système-là a duré pendant 500 concerts.
Donc on vous balançait un numéro, c'est ça, vous aviez le cahier entre les mains.
Oui.
Et puis hop, vous alliez, on faisait 12.
J'allais au 12 et je chantais le 12. Et alors je changeais de temps en temps les numéros parce que ça se savait par internet que
le 12 était telle chanson.
Le 12 était telle chanson. Il y avait quand même des numéros qui sortaient tous les soirs. Le numéro du département, le 1, le 7, le 69, le 22. Donc là, je mettais des chansons dont je savais qu'elles allaient réveiller les gens. Ça a donné 500 concerts, tous différents. Et comme m'a dit Gibraltar, quand il est venu, le secrétaire de Brassens, il m'a dit, quand je pense au temps que Georges passait pour faire son ordre, et que là, tu montres que on peut les chanter dans n'importe quel ordre.
En même temps, ces reprises de Brassens, ça avait débuté dès 79. Vous étiez attaqué à son répertoire.
Oui, mais moi j'ai toujours chanté du Brassens. Quand j'avais pas assez de chansons pour faire un concert, je rajoutais du Brassens. Alors précisément en 79, c'est le moment où on s'est séparé avec Caratini et Le Doirin. Comme je leur faisais des pièges tout le temps, que je leur chantais des chansons qu'ils connaissaient pas de Brassens. Et ils écoutaient le premier couplet, le deuxième couplet, la basse rentrait, etc. Et comme ça, il y a des arrangements, des orchestrations qui sont nées de cet exercice.
Je précise vos contrebassistes et guitaristes. Hein,
c'est ça, contrebassistes et guitaristes, parce qu'on était un trio. Et au moment de se séparer, on s'est dit, ça faut qu'on l'enregistre, ne serait-ce que pour s'en souvenir. Donc on a enregistré une partie de ces chansons-là à la Gaîté Montparnasse, je me souviens. Et je me souviens d'en avoir parlé avec Brassens, et il dit trop de notes. Mais il était content, parce que quand même, Poletti m'a montré une cassette avec mon disque recopié dessus, et de la main de Brassens, il y a écrit « Maxime chante Jojo ». Donc, s'il l'a donné à ses amis, ça veut dire qu'il n'était pas si mécontent.
Alors vous étiez quand même fixé à un pari un peu fou, Maxime Le Forestier, c'était d'interpréter tout le répertoire de Brassens avant vos 60 ans.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est assez sportif sur le plan physique. Point de vue guitare, faut pas avoir de rhumatisme. Et je me disais, on sait jamais. Les rhumatismes peuvent arriver après 60 ans. C'est Risset Barrier qui m'avait dit, si après 60 ans tu te réveilles et t'es mal nulle part, c'est que t'es mort. Donc je m'étais dit ça. L'idée, c'était de faire l'intégrale. C'est un truc de classique, ça, je crois. C'est Glenn Gould.
Avec Bach.
Oui. Et je m'étais dit, après tout, Brassens, c'est un peu le Bach de la chanson, quoi. C'est un homme qui a établi des règles. Alors, on se situe par rapport à ces règles, on les suit, on les contre, mais il a établi un schéma de la chanson classique. Donc, je m'étais dit, ce serait bien, quand même, d'enregistrer tout, même celle qu'il a pas chantée.
Vous y prenez autant, voire plus de plaisir qu'à reprendre vos propres chansons ou...
Ah oui. Ah oui, j'ai pris un plaisir à faire ça. Pff, quel répertoire. Parce que quand la chanson, vous l'avez écrite, si vous arrivez sur un mot qui vous gêne, vous aurez toujours envie de le changer. Chez Brassens, il n'y a pas de mot qui me gêne. Mais peut-être parce que c'est pour moi qui ai écrit les chansons. Lui, vous connaissez l'histoire de la supplique, qui est restée 8 ans dans les tiroirs. La supplique pour être enterrée sur la plage de Sète, parce que ça se termine par « Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences, vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. » Il adorait l'image, mais le mot « pédalo » le gênait. Et il a mis 8 ans avant de constater qu'il n'y en avait pas d'autres.
On vient d'en avoir un petit aperçu, Maxime Le Forestier, mais qu'est-ce qui vous touchait tant dans la langue de Brassens ?
Je pense que, évidemment, il y a la langue, il y a le fond, il y a la forme, mais surtout l'adéquation avec la musique. Parce qu'une chanson, c'est paroles et musique. Vous enlevez la musique d'une chanson, il manque quelque chose. Et je pense que c'est là-dessus qu'il a travaillé le plus fort, et sans qu'on s'en aperçoive, en plus. Parce qu'on me disait toujours, oh, c'est facile, les chansons de Brassens. Mais c'est le rapport entre le texte et la musique. Un jour, il m'a dit, ça m'a rendu fou de rage, il m'a dit, il faut quand même reconnaître que sans la musique, l'Auvergnat reste un poème médiocre. Moi, je pouvais pas admettre ça. Mais me plaçant de son point de vue, je pense qu'il avait raison de le penser, en tout cas, même si c'était pas vrai.
C'est vrai qu'il vous surnommait Petit Con ?
Ou ouais, enfin, celui qui a jamais été traité de con par Brassens ne l'a jamais rencontré. Ça, c'est un préalable. Et moi, j'étais le petit con. Oui.
C'était un honneur.
Ah bah oui. Oui, non, mais toujours, ce con de Bertola, ce con de Gibraltar. Et même cette phrase, moi c'est marrant, comme j'ai retenu beaucoup de phrases de sa conversation. J'ai prêté ma voiture à ce con, il s'en est fallu de peu qu'il me la rendit naze. L'imparfait du subjonctif avec le mot d'argot.
En même temps, quand on sait à quel point la reprise est périlleuse, comment vous avez fait pour trouver votre juste place dans son répertoire ?
Quand j'ai commencé à chanter Brassens, je ne l'avais jamais entendu. J'en avais pas de disque. Donc je l'ai chanté sur les partitions, j'ai chanté ce qui était écrit. Et j'ai gardé cette habitude. Le phrasé de Brassens, il y en a qui pensent que c'est dans l'écriture, moi je pense que c'est dans l'interprétation. Parce qu'il ne chantait pas tous les jours le même phrasé, donc je me fie au phrasé qui est écrit sur la partition.
Et vous, quand vous revisitez pour la énième fois vos tubes, parce que vous aussi, vous en avez eu des tubes, est-ce que vous les interprétez à chaque fois d'une manière différente, pour pas vous lasser ?
Ça dépend, il y a des chansons qui n'ont jamais bougé. Éducation sentimentale, elle n'a jamais bougé, Fontenay en rose non plus. Et puis il y a des chansons qui ont vécu des peintures, les peintures les plus dingues. Hein. San Francisco, elle a morflé. Hein. Mais il y a eu des belles... Je me souviens de l'interprétation du Bataclan avec Jean-Michel Cagedan, où c'était devenu californienne, vraiment californienne. Quoi. Mais quelque part aussi, elle a pris beaucoup. Mais j'aime bien, moi, ça, l'idée qu'un nouveau groupe de musiciens s'empare d'une chanson et lui donne une autre couleur. Alors, ou la chanson l'admet et elle reste, ou la chanson le supporte pas et elle gicle. Mais c'est un bon tri. C'est Sabar qui dit un vrai standard, même massacré, ça reste un standard.
Est-ce que pour vous, Maxime Le Forestier, il y a un lien entre Brassens et le cheval ? Mis à part enfin, le petit cheval blanc.
Moi, j'en ai... Non, Brassens, c'était pas du tout cavalier. Lui, il aimait les chats. Et il n'avait pas du tout cet état d'esprit. Non, moi, la liaison que j'ai faite, bon, c'est, il y a les liaisons dans le temps. C'est-à-dire, en été 72, j'ai fait 2 mois de stage chez Nuno Oliveira. Et en octobre 72, j'étais sur scène avec Brassens et je le regardais tous les soirs. Et ce qui m'a frappé chez ces deux hommes, c'est le minimalisme. C'est-à-dire que Oliveira faisait faire à ses chevaux des choses absolument invraisemblables. On ne voyait rien bouger, ni de ses mains, ni de ses pieds, ni de rien. Brassens faisait un demi-sourire un quart de seconde avant une vanne, et les gens étaient morts de rire. Je me dis, tiens, c'est quand même curieux, cette maîtrise qui fait qu'on a besoin de si peu d'aide pour obtenir de si beaux résultats. Voilà la liaison que j'ai faite entre Brassens et Oliveira. Outre le fait, évidemment, que c'était concomitant, quoi. C'était quasiment la même période.
Du coup, est-ce que ça vous a incité à être à votre tour minimaliste,
oui,
dans votre aussi posture sur scène?
Au début, oui.
Je pense notamment pardonnez-moi, mais peut-être à Jacques Weber, qui vous reproche une certaine forme de raideur.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Qui est un de vos amis avec qui vous avez démarré le cours Florent quand vous étiez jeune.
Ah oui, non, mais c'est Jacques, c'est un ami. C'est parce que c'est un ami qu'on peut se permettre de se dire des choses désagréables. À chaque spectacle, on a le droit de s'en dire trois, pas plus, et qu'on puisse changer dans la nuit. Dire ton décor est nul, ça sert à rien, hein, parce qu'il va pas le changer dans la nuit. Mais quand il m'a dit arrête de bouger ta jambe gauche dans Comme un arbre, ça m'a gêné. J'ai totalement arrêté de battre la mesure avec mes jambes. Mais c'est Jacques. Non, c'est vrai, une certaine raideur. Peut-être le fait d'avoir joué beaucoup de la guitare, ça fait que j'ai pas développé la gestuelle. Et les gestuelles de guitariste de rock me font marrer, donc je peux pas faire ça.
Sinon vous seriez hilar sur scène.
Oui. Ah oui, oui. Ça fait que c'est de moins en moins, c'est pas un spectacle, c'est un concert. Le musicien classique qui revient.
Est-ce que vous avez des rituels, Maxime Le Forestier, avant un concert?
Ah oui, oui, c'est très précis. J'arrive en général à 18h. Je fais la balance de son avec les musiciens. Après, je rencontre les journalistes qui veulent me voir dans la ville où je suis. Et vers 7h, je vais dormir. Et puis, 20 minutes avant le lever du rideau, on vient me réveiller avec un café au miel. Je bois mon café, je m'habille et je vais chanter. Pas le temps de m'inquiéter, quoi. Comme j'ai la chance de pouvoir dormir sur commande, j'en profite.
Dormir pour reposer la voix?
Alors, ma prof de chant, Raymond Viret, dit que c'est pas bon du tout. Mais de toute façon, je m'en fous, hein. Je fais ce que je veux. Raymond Viret, elle a 93 ans. Elle avait enseigné à mon fils Arthur d'abord. Puis un jour, on se rencontre pour la première fois. Elle me dit, vous avez vu Arthur? Il l'a le contrut. Je lui dis, ben oui, il l'a fortissimo. Le jour où il aura pianissimo, je commencerai à dire bravo. Je lui dis, mais faut 15 ans pour obtenir ce résultat-là. De toute façon, vous n'avez jamais su chanter. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des cours avec elle et qu'elle m'a vraiment, vraiment aidé, quoi.
Et ça n'a jamais cessé ou...
Ah non, je continue à prendre un cours de temps en temps, mais j'adore son rapport. Moi, j'ai quand même entendu « Fais pas chier la vieille, tu l'as le si bémol ». C'est quand même bien, non? Elle a sauvé la voix de Weber, et François Morel, il va souvent chez elle. Et puis, elle a aussi des gens qu'elle soigne, des gens qui sont malades.
Alors revenons aux chevaux et à Nuno Oliveira, donc ce grand maître écuyer portugais que vous surnommez, je crois, magicien. Presque pour vous, c'est un magicien.
Moi, j'ai jamais dit ça. Non, c'est les gens qui l'appellent comme ça. Mais des écuyers qui font le galop en arrière sur quatre jambes, il y en a un par siècle. Et lui, c'était celui du 20e. Bon, ça c'est pour rigoler.
Qu'est-ce qui vous a transmis? Vous avez initié au dressage? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Portugal auprès de Nuno Oliveira?
Moi, je cherchais à apprendre à monter à cheval. Je me suis très mal entendu avec les gens qui étaient dans les clubs, les sous-maîtres du cadre, etc. C'était très militaire, très chiant. J'ai rencontré un jour à Senlis, chez un cascadeur, un type qui parlait gentiment aux chevaux et aux gens. Donc j'ai appris pendant un an avec lui. Et au bout d'un an, il m'a dit, écoute, là, je suis arrivé au bout de ce que je sais, faut que tu ailles voir mon maître pour... Bon, c'était Oliveira, il m'a donné l'adresse. Je venais de toucher 4000 francs de droit d'auteur de La Ballade pour un traître. Je suis parti avec mes 4000 balles et voilà.
Interprété par Reggiani, on
dit. Oui, voilà. Et je suis arrivé chez Oliveira. Alors, c'était un manège quand même dans la banlieue nord de Lisbonne, qui avait vu passer le roi d'Espagne, mais aussi il y avait un instituteur stagiaire tunisien qui était là et qui dormait dehors. Enfin, il y avait toutes sortes de gens qui avaient en commun l'amour de la beauté, l'amour de l'art. Enfin, et Oliveira m'a appris parce que j'étais musicien, et que pour lui, le tempo, ce qu'il appelait la cadence, c'est le secret de l'éducation des chevaux, c'est la cadence.
C'est-à-dire qu'il lui arrivait aussi de dresser des chevaux en musique ou de...
Ah, tout le temps.
Ah oui.
Tout le temps. Il y a même eu deux époques. Il y a eu son époque Beethoven, où c'était des chevaux qui semblaient furieux et tout. Et puis il y a eu son époque Verdi. Je suis arrivé, la première année de l'époque Verdi, quoi, où les chevaux commençaient à être beaucoup plus propres, sophistiqués. Et une fois, je me souviens, il me dit, faut que vous chantiez dans mon manège. J'ai dit, mais maître, je suis très cher, vous pourrez jamais me payer. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux que vous montiez Ansioso. Ansioso, c'était un cheval de l'époque Beethoven, qui avait 18 ans, qui était longé tous les jours par un palefrenier, mais qu'Olivera ne montait plus. Et il dit, bon, je paye d'avance, parce qu'Ansioso est un vieux cheval. Tout. Il fait signe à son palefrenier, qui lui amène Ansioso debout au bout de la longe. Évidemment, ce cheval était plein de jus. Bon, Olivera descend dans le manège. Le palefrenier lui tient le cheval, parce que toujours... Il fallait que quelqu'un lui tienne son cheval quand il montait dessus. Je lui ai demandé pourquoi un jour. Il dit, vous rendez compte, s'il fait un pas en avant, je vais commencer la leçon par un mouvement en arrière. Donc il monte sur le cheval se met sur ses quatre pieds, et il me dit, Maxime, vous n'allez pas voir une démonstration de haute école, vous allez voir un animal interpréter le concerto de l'empereur. Là, sa fille a mis le concerto de l'empereur, et j'ai vu un festival. J'ai vu un cheval sauvage, dont chaque geste était commandé. Mais c'était un cheval sauvage. La vision qu'on en avait, c'était un cheval sauvage. J'ai vu un centaure, en fait.
C'est amusant, Maxime Le Forestier, parce que quand je vous observe parler de chevaux, d'équitation, j'ai l'impression que votre regard s'illumine tout d'un coup. Vous, à votre tour, vous avez eu des chevaux, plusieurs dans votre vie, et notamment un qui s'appelait Faris,
oui,
qui était à vos côtés pendant une trentaine d'années, c'est ça?
Oui, il est mort à 36 ans.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Est-ce que vous avez eu des moments de grâce
avec
mon
cheval? C'était mon cheval. J'ai jamais eu de moments de grâce de dressage, comme j'ai pu avoir avec Radames, qui avait été dressé par Oliveira, où là, il y a des moments où vous avez le sentiment, c'est très, très bref, hein, vous avez le sentiment pendant quelques secondes que vous faites qu'un. Vous êtes un...
Que votre corps ne fait plus qu'un,
ouais,
avec celui du cheval.
Ça, c'est... Faris n'avait pas un niveau d'éducation suffisant pour offrir ça à un cavalier. Mais Faris était pour un cheval entier et qui avait déjà reproduit, hein, il connaissait l'amour. En principe, ça les rend plutôt invivables, contrairement aux hommes, oh quoi que. Mais j'ai vécu des trucs avec lui. Je me souviens d'être parti un jour d'hiver, chez un voisin qui est à 3 km à vol d'oiseau. Bon, je mets mon cheval dans son écurie, je décèle, tout ça, on mange, on boit, on mange, on boit. Je sors, la neige avait effacé tous les chemins, rien, j'étais raide bourré. Et mon voisin me dit, mais attends, tu vas pas rentrer? Je dis, ouais, si. Je suis monté sur mon cheval, je me suis endormi et je me suis réveillé devant la porte.
Donc il vous avait ramené à bon port?
Oui, il aurait pu me tuer en rentrant dans son écurie direct. Non, il m'a arrêté devant ma porte.
Vous lui avez fait un cadeau?
Oh. Non, c'est le rapport aux enfants aussi. Il adorait les enfants. Quand je faisais rentrer un enfant dans son box, il ne bougeait plus. Et quelquefois, il allait jusqu'à trembler, parce qu'il ne voulait pas le blesser. C'était un animal qui avait une sensibilité particulière. Il a fini sa vie là, 36 ans, il était devenu maigre, c'était devenu là, le cheval de Don Quichotte. Je me faisais insulter parce que les gens pensaient qu'il était maigre parce qu'il était mal soigné. Mais bon.
Est-ce que pour vous, Maxime Le Forestier, l'osmose physique du cavalier avec son cheval a un lien avec la fusion éprouvée par l'artiste face à son public?
Oh, il y a quelque chose de commun, oui. C'est que la salle est plus forte que vous, comme le cheval est plus fort que vous. Mais c'est vous qui dirigez. Il y a des salles molles, il y a des chevaux mous. Il y a des salles très nerveuses, il y a des chevaux très nerveux. Il faut savoir jouer avec ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des sensations proches. Oui.
Qu'est-ce qu'on ressent face à une salle de je sais pas, 2000 personnes qui tout d'un coup se tait ou...
Ah, ça c'est... Vous me demandez de vous raconter ce pourquoi je vis. Et ce pourquoi tous les gens qui font de la scène vivent. C'est indicible. C'est indicible ce qu'on ressent. Mais on ne peut pas s'en passer. J'en connais pas beaucoup qui ont arrêté la scène de leur plein gré. Quoi. Il y a eu Brel et Goldman. Tous les autres ont abandonné la scène parce qu'ils étaient obligés, soit pour des raisons physiques, soit parce que ça marchait plus, soit ceci, cela. Mais autrement, moi, j'envisage pas de ne pas chanter. Quoi.
Je vous propose de nous quitter, Maxime Le Forestier, sur une dernière passion. Vous allez me dire si c'est une passion, c'est l'apiculture. Dans votre cuisine, là, on y était tout à l'heure, il y a une grande cheminée, et puis à gauche, il y a une petite table, et j'ai vu que dessus, il y avait plein de pots de miel.
Non, on a fait une petite récolte hein, cette année, on a fait 40 pots, c'est pas... c'est petit. J'ai eu jusqu'à 80 kilos, avec trois ruches. Mais... Oh, c'est fou d'avoir des amis qui ont du talent, quand même. J'ai un ami qui est dans le coin, il s'appelle Alain Moreau, qui est un éditeur, qui arrive ici pour déjeuner, et au lieu d'apporter une caisse de pinard, comme ferait n'importe qui, m'a apporté une ruche avec un essaim dedans, et Jean-Claude Parent, qui est le meilleur spécialiste du département de l'apiculture. Et on a parlé abeilles. Donc moi, évidemment, je me suis mis à bosser un peu l'histoire. Et puis... j'ai inclus des voisins, j'ai un copain qui est prof au lycée agricole, il est venu, il a fait tous les stages, etc. Puis il y avait des élèves à lui qui avaient fait des travaux, donc j'ai offert au lycée agricole une ruche. Donc maintenant c'est un des deux lycées agricoles en France qui enseigne l'apiculture. Du coup ils ont branché la ville de Vendôme qui a mis des ruches partout. C'est bien, c'est au moment où les abeilles ont le plus de difficultés qu'on essaye de multiplier les ruches.
Et vous avez même, m'avez-vous dit, trouvé un remède pour combattre les frelons
asiatiques? C'est pas moi, parce que le milieu des apiculteurs amateurs est un milieu qui communique beaucoup et qui est très débrouillard. Et le frelon asiatique aime la bière, alors que les abeilles détestent l'alcool. Donc on peut mettre un piège à frelon asiatique à côté d'une ruche, le frelon tombera dedans, pas l'abeille.
À votre santé, Maxime Forestier, merci.
À la vôtre.
Fin de cette rencontre de Jérôme Sandlars avec Maxime Le Forestier. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Yvan Turc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.